Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceaux, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Cette semaine, 7 nouveautés, The Apprentice, Lee Miller, l'histoire de Suleiman, Nikki, et puis les trois que nous n'avons pas vus, Le Robot Sauvage, Terrifier 3 et My Hero Academia, You're Next. Pour ce qui est de la programmation musicale, on va faire du blind test avec Pierre, puisque The Apprentice se passe dans les années 70, en tous les cas, c'est la période chérie par Pierre.
Plutôt années 60.
Années 60, oui. Ah d'accord.
Enfin, parce que, on va voir.
Parce que c'est une émission qui a lieu le samedi, sauf cette semaine d'ailleurs.
Non, pas demain.
Ouais, et bien elle se consacre donc au rock-pop
des années 60.
Des années 60. Oui, donc là, on est un peu plus tard. Allez, dès l'introduction, je pense que Pierre va trouver ce titre que l'on entend dans le film The Apprentice. C'est parti.
Je connais, mais je trouve pas le nom.
Bon, alors c'est Rock Your Baby, George McRae.
Ah, j'aurais pas trouvé.
George McRae, j'ai dansé là-dessus moi, c'est Rock Your Baby, c'est un titre que l'on entend au début du film The Apprentice. Ben, c'est le moment d'en parler de The Apprentice, c'est un film de Ali Abbasi, réalisateur scénariste d'origine iranienne. En 2016, il réalise un film qui s'appelle Shelley, je pense que ça a un rapport avec Marie Shelley, envoyé en VOD, et puis les deux autres films qu'il a à son actif, en 2018 Border et en 2022 Les Nuits de Mashhad, ont été distribués au cinéma et ils ont été projetés, me semble-t-il, au cinéaste à l'époque. Et puis Ali Abbasi a son épisode également à son actif des épisodes de la série The Last of Us. Pour ce qui est de la programmation de The Apprentice, on peut le voir avec deux séances par jour en VO au cinéaste, mais on peut le voir aussi en VF au Méga CGR, en VF et en VO aussi au Pathé Quincon. S'il est possible, qu'Oméga Stagiaire, il y a quelques séances en VO, mais je ne les ai pas forcément en tête. Pierre, parle-nous de ce film The Apprentice.
Durée 2 heures avec Sébastien Stan, Jeremy Strong et Maria Bakalova. Le synopsis, véritable plongée dans les arcades de l'Empire américain, The Apprentice retrace l'ascension vers le pouvoir du jeune Donald Trump grâce à un pacte faustien avec l'avocat conservateur et entremetteur politique Roy Cohn. La revue de presse est très empathique pour ce film. Je commence avec Écran large, avec Antoine Déru. Ali Abbasi est bien sûr fasciné par la naissance de son monstre libéral, mais The Apprentice est surtout une belle réflexion sur l'évolution du capitalisme américain à la fin du XXe siècle et sa manière d'avoir laissé des figures comme Donald Trump en émerger. Le Figaro, avec Eric Neuhoff, un film bluffant et tonitruant du dano-iranien Ali Abbasi. Le Journal du Dimanche, précis, ironique, cinglant et implacable, le récit d'apprentissage offre une partition exceptionnelle à ses interprètes, Sébastien Stan et Jeremy Strong, ahurissant. Le Parisien avec Catherine Ball, un long métrage brillant et édifiant, truffé de bons mots et de quelques moments inquiétants. Marianne avec Olivier De Bruyne, un film incisif sur les débuts dans le business de Donald Trump. Ouest France avec Philippe Lemoine, édifiant. Télérama avec Louis Guichard, un scénario cinglant et des acteurs époustouflants. La Croix avec Cécile Roudain, la mise en scène sans temps mort du réalisateur danois d'origine iranienne excelle à reconstituer jusque dans le grain un peu sale de l'image le New York de cette époque et la bascule progressive vers la décennie bling-bling et ultra-libérale des années Reagan dont Donald Trump est le pur produit. Paris Match avec Yannick Velli. Si le récit est classique avec un padawan qui finit par devenir plus redoutable et inhumain que son mentor, c'est l'incarnation qui séduit. Sébastien Stan parfait en jeune Donald Trump, oisignon tombé de nid qui se transforme en rapace et Jeremy Strong, extraordinaire de présence machiavélique en Roy Cohn. Et enfin, Les Inrecuptibles avec Théo Ribeton, un défilé clinquant de décors, critique convenue du faste de l'Amérique réganienne, pour laquelle le film éprouve tout de même une nostalgie fétichiste prononcée. On pourrait arguer qu'il a la conscience du rien et que The Apprentice traite au fond du caractère vaporeux virtuel de la fortune de Trump.
Alors, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Paris Match, Yannick Lely. Cette semaine, il y a 3 biopics, hein, The Apprentice consacré à Donald Trump, Lee Miller à Lee Miller et Nikki à Nikki de Saint-Phal. Eh bien, The Apprentice, c'est celui qu'il faut voir cette semaine. Il se concentre donc sur les débuts dans le monde des affaires du jeune Donald Trump, ambitieux mais inexpérimenté, qui va rencontrer avec l'avocat Roy Cohn un mentor et une âme damnée qui va lui inculquer, comme une sorte d'apprentissage, d'où le titre, hein, qui va lui inculquer tous les principes qui vont permettre son ascension dans le monde des affaires et plus particulièrement dans l'immobilier new-yorkais. Alors, ça commence par la première acquisition de la tour Commodore, qui est transformée en hôtel de luxe, puis la construction de la pharaonique et mégalomaniaque Trump Tower, et enfin la création des casinos à Atlantic City. Le film s'arrête juste avant que Trump ait des velléités d'ordre politique, même si cela est déjà en germe sur la toute fin du film. Voilà, donc on a un film qui suit sur un rythme frénétique l'ascension de Trump, mais aussi on évoque sa famille, un père hyper autoritaire, homme d'affaires déjà dans le bâtiment, mais sans grande envergure, dont le fils est au départ le simple collecteur de loyer, et le fils veut absolument épater son père parce que voilà, son père est très méprisant vis-à-vis de son grand frère, et donc voilà, le fils veut épater son père. Il y a la mère, alors la mère c'est un peu le seul personnage qui a les pieds sur terre dans la famille. Il y a le frère aîné, donc j'en parlais, frère aîné aimé mais un raté, alcoolique, pourtant il est pilote de ligne, mais pour le père, pilote de ligne c'est conducteur de bus avec des ailes. Voilà, donc c'est comme ça. Et puis il y a le mariage avec Ivana, mariage pour le meilleur et pour le pire. Mais surtout, le film, c'est le film sur les liens qui unissent Trump à ce Roy Cohn, qui a tout de suite vu le potentiel du jeune homme et va lui apprendre les règles d'or cyniques du business. Donc, deux portraits saisissants d'hommes sans scrupules, prêts à tout, y compris les coups les plus tordus, pour arriver à leur fin, interprétés par deux acteurs fabuleux. Je ne sais pas s'ils seront nominés aux Oscars, mais en tous les cas, ils mériteraient. Deux acteurs fabuleux dans leur rôle, et notamment Sébastien Stan, je ne connaissais pas du tout, hein, moi, qui a vraiment tout piqué de la gestuelle et des mimiques du futur président des États-Unis. Moi, Roy Cohn, je ne sais pas ce qu'il a piqué, parce que je ne le connais pas, Roy Cohn, mais Donald Trump, on le voit, donc on sait comment il bouge. Et là, vraiment, il est assez incroyable d'avoir tout piqué dans la gestuelle. Donc, bah, c'est un film que je trouvais assez incroyable, brillant dans sa mise en scène, du genre incroyable mais vrai, qui fait du culot et du cynisme des valeurs cardinales. C'est vraiment un film à voir, j'ai adoré The Apprentice, et je recommande chaudement à Pierre qui ne l'a pas vu.
Bah non, mais mercredi j'étais pris pour des raisons personnelles, puis aussi la condition météo, c'était assez horrible.
Ça, il faut être motivé pour aller au cinéma, oui, mercredi, on est bien d'accord. Allez, on passe à Lee Miller. Lee Miller, c'est un biopic là aussi, réalisé par Hélène Curras. Hélène Curras, c'est son premier long métrage en tant que réalisatrice. Auparavant, elle avait réalisé un documentaire en 2008 qui s'appelait The Betrayal, envoyé directement en VOD. Elle a à son actif aussi des épisodes de séries. Et puis, elle est surtout connue comme directrice de la photographie. Elle est américaine. Elle est née en 59 et c'est donc son premier long métrage distribué en France. Le film dure 1h52. Le titre original, Lee, et c'est avec Kate Winslet notamment. C'est l'incroyable vie de Lee Miller, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray, devenue l'une des premières femmes photographes de guerre, partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre. Elle a, par son courage et son refus des conventions, changé la façon de voir le monde. Là, c'est très partagé hein, pour la presse. Renaud Barognan dans Le Parisien, comme toujours époustouflante, Kate Winslet fait merveille dans ce rôle d'une féministe qui a su lutter contre la volonté des hommes pour accomplir sa destinée. La rédaction du Point, il ne s'agit pas d'un biopic, tiens donc, mais du portrait sensible d'une femme anticonformiste, portée par le goût du risque et le sens de l'engagement. L'actrice de Titanic et de la série policière East Town joue la carte du réalisme brutal. Spontanée, sans phare, elle porte le film sur ses épaules et nous embarque dans le tourbillon d'une vie hors norme. C'est bien la vie de Jérémy Cousteau dans Télérama, sans révolutionner le genre, mais avec un souffle épique et une émotion contenue. Ce film historique atteint son but dignement. West France, même s'il présente quelques faiblesses, ce biopic est porté par l'interprétation magistrale de Kate Winslet. Julien Barcillon dans Télé 7 jours, un biopic trop sage. Fort heureusement, Kate Winslet livre une performance habitée. Barbara Théâtre, le journal du dimanche, le talent caméléon de Kate Winslet fait oublier une mise en scène un peu trop sage dans ce biopic qui rend hommage au courage et au talent d'une des plus grandes photographes du XXe siècle. Françoise D'Argent dans Le Figaro, le biopic d'Hélène Curras, retrace un peu trop laborieusement le destin de la photographe qui chronique à l'avancée des alliés en Europe. Et puis, il y a carrément ceux qui n'ont pas du tout aimé, comme Olivier de Bruyne dans Marianne, qui qualifie le film de biopic académique. Thomas Borès dans Première, malheureusement, ce biopic lourdingue se vautre dans tous les pièges de l'exercice avec son petit mémo Wikipédia en guise de scénario. Quant à la structure en flashback sur le mode du « je me souviens », ce n'est décemment plus possible. Xavier Lerper dans l'Obs, Kate Winslet se révèle impuissante à sauver le projet malgré son talent et son engagement. Maud Tenda dans Les Incorruptibles, le film réussit l'exploit triple de rendre médiocre de bonnes acteurs et actrices, de nous ennuyer avec un sujet aussi riche et enfin de passer complètement à côté de son thème principal, à savoir la photographie de guerre, jamais vraiment interrogée et reléguée au rang de simple activité. Bah, Lee Miller.
J'ai plutôt penché vers les dernières critiques alors.
Eh bien, on va voir ça dans un petit instant. Le film est proposé au Pathé Quinconce et au Méga CGR. Au Pathé Quinconce, il y a au moins de la VO, mais peut-être qu'au Méga CGR aussi, mais pas beaucoup. Hein. Donc, c'est un biopic, oui, sur la photographe Lee Miller, construit sous la forme de flashback à partir d'une interview réalisée par un journaliste dans les années 60, et ça permet d'évoquer la vie sur une période d'une dizaine d'années, une dizaine d'années charnières dans la vie de Lee Miller. On va de l'immédiat avant-guerre, où elle est mannequin pour Vogue, elle mène une vie insouciante, entourée de figures intellectuelles, de la vie intellectuelle de l'époque. Puis, Elle est réfugiée à Londres en 1940 quand la guerre éclate et elle se découvre une vocation de photographe et dès lors elle devient reporter de guerre pour le magazine, au départ magazine mode, Vogue. Elle va suivre l'armée américaine d'août 1944 après le débarquement à la libération de Paris, l'entrée des Allemands en Allemagne et sa découverte des camps d'extermination dont elle est l'une des premières à montrer à travers ses photos l'indicible horreur et enfin jusqu'à la fin de la guerre où elle réalise une photo devenue célèbre, semble-t-il, d'elle dans la baignoire de l'appartement d'Hitler. Voilà, un des appartements d'Hitler, parce que c'est pas le bunker, je pense pas. Voilà, donc, de facture longtemps très classique, le film se termine toutefois par un petit twist de mise en scène dans les 20 dernières minutes qui permet d'évoquer un traumatisme de son enfance, mais aussi d'autres choses dont je vous laisse la surprise. Alors certes, on n'apprend pas grand chose de ce que nous ne sachions déjà sur les horreurs vécues lors de la Seconde Guerre mondiale, mais le film a le mérite de nous faire découvrir la personnalité, surtout le travail photographique de Lee Miller, qui fait d'elle une des pionnières longtemps méconnues du genre reporter de guerre, reporter photographe de guerre. Elle est restée longtemps méconnue, hein, donc. Et... Alors, c'est sûr, on sent de bout en bout l'implication de Kate Winslet à faire revivre cette femme hors du commun à l'époque, une féministe avant l'heure, dirons-nous. Ça donne au total un film intéressant, à défaut d'être un film vraiment marquant, mais bon, hein, Pierre.
Oui, alors moi j'ai sans doute lu que les critiques négatives, parce que je vais vous dire, en sortant du film, bien m'en a pris de lire les critiques, donc j'ai pas vu les bonnes, car je suis sorti dépité de la séance, alors je vais reprendre les termes que j'ai pu lire, car les mots de ces critiques se trouvent être les mêmes que ceux qui me trottaient dans la tête en sortant. Un film long, laborieux, un biopic décevant qui manque cruellement de rythme et de souffle, et n'inspire que l'ennui. J'ai repris un des petits mots hasard.
C'est vrai, hein, tout ça.
Ce film est une suite incessante de flashbacks sur la guerre de 39-45, alors qu'au temps présent, il s'agit d'un dialogue d'une grande mièvrerie qui se passe en 1977, et c'est l'année de la mort de vraie Lee Miller. Mm-hmm. On notera enfin que la vraie Lee Miller, justement, a été top modèle pour Vogue, c'est vrai, avant d'être reporter. Au vu des photos de Lee Miller, la vraie toujours, bah oui, elle était jolie, mais est-ce que Kate Winslet était vraiment à la hauteur pour cela? Bref, pour moi, c'est un film à éviter.
Voilà, donc Lee Miller s'est proposé au Pathé Quinconce et au Méga CGR. Il y a de la VO, mais très peu. Pierre a pas du tout aimé. Ben moi, oui, bof.
Sans plus.
Un peu bof, bof. Oui. Voilà. Allez, deuxième tentative de trouver un titre que l'on entend dans le film The Apprentice. Allez, je laisse le début.
Je connais, mais c'est pareil.
C'est les Pet Shop Boys.
Ah oui.
Always on my mind.
Ouais, 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 effectivement.
Yeah. Pet Shop Boys, Always on My Mind. Et c'est un titre qu'on entend dans The Apprentice. Et maintenant, nous allons parler de l'histoire de Suleiman, le film proposé uniquement au cinéaste, avec deux séances par jour. C'est un film réalisé par Boris Lochkine, acteur, réalisateur, scénariste français né en 69. En 2005, il réalise un documentaire qui s'intitule « Les âmes errantes », 2014 « Hope » et 2019 « Camille », avec déjà Nina Meurice qu'on voit dans ce film « L'histoire de Suleiman » et Bruno Todeschini. Pierre, dis-nous en plus sur l'histoire de Suleiman.
Durée 1h33 avec Abou Sangaré, Alpha Oumarceau et Nina Meurice. Le synopsis. Tandis qu'il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Suleiman répète son histoire. Dans deux jours, il doit passer son entretien de demande d'asile, le Sésame, pour obtenir ses papiers. Mais Suleiman n'est pas prêt. La revue de presse, Les Échos ainsi que Marianne avec Olivier De Bruyne, bouleversant, sans angélisme ni sensiblerie, on oublie les fictions démagogiques croulant sur le poids de leurs bons sentiments. Dans son nouveau film, un des plus impressionnants de l'année du côté du cinéma français, Boris Lochkine suit à la trace un sans-papiers confronté au réseau de l'économie souterraine et à l'absurdité administrative à découvrir d'urgence. Télérama avec Guillemette Odissino, un thriller à couper le souffle. Cinéma teaser avec Emmanuel Spadacenta, que celui qui ne finit pas dévasté nous jette la première pierre. La Croix, une fiction à l'os, construite comme un documentaire, qui ne verse jamais dans la caricature ou la sensiblerie, et portée par ses interprètes, tous non professionnels. Le Figaro, pas d'artifice, pas de musique, pas d'intrigue secondaire, ni de personnage sympathique pour adoucir le propos. L'histoire de Suleiman a été couverte de lauriers au dernier festival de Cannes, dans la section « Un certain regard », prix du jury, prix d'interprétation masculine et prix Fipreski de la critique internationale. Tant mieux pour le film. Le journal du dimanche, une œuvre aussi immersive que nécessaire, jamais donneuse de leçons ou maladroitement militante. Ouest France, entre documentaire et thriller, un récit haletant qui révèle un comédien saisissant. Première avec Thierry Chaise. Un grand film incarné par un immense acteur non professionnel, à l'exception de Nina Meurice, déjà héroïne de Camille d'ailleurs, Abou Sangaré lui-même dans la vraie vie, en quête d'une régularisation qui lui a été refusée. Les Cahiers du cinéma avec Romain Lefebvre, le maintien d'un rythme trépidant, s'il fait une certaine efficacité dramatique, constitue aussi une limite. Le film ne dénonce la violence sociale qu'en la redoublant, enfermant et enfonçant son personnage dans les mailles serrées de la représentation. Et enfin, Les Inrecuptibles, avec Ludovic Béot, en surdramatisant lourdement la trajectoire de son personnage, le film de Boris Lochkine vire à la chronique rédemptrice et perd toute portée politique.
Oui, alors le dernier critique, franchement, bon, passons. Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent film. Excellent film, tant sur la forme que sur le fond. Ça traite de la vie des immigrés clandestins en attente de régularisation en France. Donc Suleiman, c'est un jeune Guinéen, il est arrivé en France sans papier, après avoir traversé l'Algérie, enfin le désert, puis l'Algérie, puis la Libye, etc. Enfin bref, le périple habituel. Pour survivre, il fait le livreur à vélo pour une plateforme de livraison de repas à domicile, genre Uber Eats, Deliveroo, vous voyez ça un petit peu. Et dans deux jours, il va passer un entretien crucial qui décidera de son sort et donc de son avenir. Sera-t-il régularisé ou pas? En attendant, il apprend par cœur le récit bidon qu'il va débiter à l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, qui est chargé de statuer sur son sort, et tout en continuant, donc il apprend ce récit par cœur, tout en continuant sa vie quotidienne, une vie quotidienne qui est une vraie galère, où il court toujours entre deux livraisons, à la recherche d'un logement pour la nuit, etc. etc. Donc un récit rythmé, sous la forme, on est en caméra embarquée, c'est caméra embarquée, soit caméra à l'épaule, soit caméra sur vélo, puisqu'il est suivi en vélo, on est en immersion, en permanence, pour saisir l'urgence dans laquelle ce garçon vit, ce Suleiman vit. Sur le fond, le réalisateur nous fait ressentir vraiment le stress constant, permanent, de ce que peut être la vie de Suleiman, escroqué par ses compatriotes, exploité par les plateformes, en but à des clients tantôt désagréables, tantôt indifférents, mais quand même quelques-uns qui sont bienveillants. Suleiman se bat pour survivre sans jamais se plaindre entre ses problèmes quotidiens et ceux qu'il a laissés au pays avec sa mère et sa fiancée. Et toujours dans l'urgence, dans l'angoisse de l'accident, dans l'angoisse de l'arrestation, dans la fatigue permanente. Alors les acteurs sont tous non professionnels, sauf Nina Meurice qui est la fonctionnaire de l'OFPRA qu'on voit dans les dernières 20 minutes du film. Ils sont forcément crédibles puisque en quelque sorte ils jouent en fait des situations proches ou identiques de celles qu'ils ont vécues ou vivent encore éventuellement de nos jours. Ça donne un excellent film avec une approche quasi documentaire. Je reprends l'expression de sorte de thriller social. Et puis alors c'est surtout jamais donneur de leçons, jamais moralisateur. C'est un film sur ce qu'on appelle les invisibles qu'on croise tous les jours dans nos rues en ignorant leur histoire. C'est un film à voir absolument. Cette semaine il y a deux films à voir absolument dans deux genres totalement différents, The Apprentice et l'histoire de Suleiman. Voilà. Nicky, on va en parler tout de suite. Je suis moins enthousiaste. Hein, vous allez le voir tout de suite. Donc Nicky, c'est un film qui est proposé par le cinéma Les Cinéastes, deux séances par jour là aussi. C'est un film de Céline Sallette. Céline Sallette, elle est surtout connue comme actrice. On l'a vu récemment, par exemple, dans Les Algues Vertes, par exemple, Rouge également, Petite, dans Vous êtes fou, dans La French. Et là, c'est son premier film en tant que réalisatrice et scénariste. Céline Sallette, elle est née en 80. Pierre, dis-nous plus de choses sur Nicky.
Durée 1h38 avec Charlotte Lebon, John Robinson 4 et Damien Bonnard. Le synopsis, Paris, 1952. Nicky s'est installé en France avec son mari et sa fille, loin d'une Amérique et d'une famille étouffante. Mais malgré la distance, Nicky se voit régulièrement ébranlé par des réminiscences de son enfance qui envahissent ses pensées. Nicky trouvera son chemin vers la lumière et dans l'art, une arme pour s'en libérer. La revue de presse, Elle, avec Françoise Delbecq, un biopic formidable. Cinématiseur avec Emmanuel Spadasanta, du cinéma en majesté. Le Figaro avec Éric Neuhoff, Céline Sallette brosse avec fougue et brio l'éclosion artistique de Nicky de Saint-Phal, étonnante Charlotte Lebon. Le Parisien avec Renaud Baronian, ce portrait aussi passionnant est transcendé par celle qui interprète le rôle titre. Charlotte Lebon livre une incarnation si électrisante et émouvante qu'elle sonne comme le plus bel hommage que l'on pouvait rendre à l'artiste. Les Échos avec Olivier De Bruyne. La comédienne Céline Sallette passe derrière la caméra pour évoquer la personnalité complexe de la plasticienne Nicky de Saint-Phal. Une réussite. Ouest France avec Pascal Vergerot. Un portrait psychologique un peu sage mais instructif dans une reconstitution léchée des années 50-60. Télé 7 jours avec Isabelle Magnier. En même temps qu'à la naissance émouvante d'une artiste majeure du XXe siècle, on assiste à celle d'une très prometteuse réalisatrice. La Croix avec Corinne Renoux-Nativelle. Nicky manque cruellement des tableaux et sculptures dont Céline Sallette n'a hélas pas obtenu les droits de reproduction. Mais la cinéaste en tire une force. Faute d'œuvre, c'est une artiste à l'œuvre qu'elle filme. Le Monde. En choisissant de filmer du point de vue des œuvres, la caméra s'accroche de manière assoiffée au visage de son actrice Charlotte Lebon, impressionnante de justesse et qui livre à la caméra son visage traversé par une météo d'affect imprévisible. De là surgit une belle idée. Si on ne peut pas filmer les œuvres, alors le visage d'une femme tiendra lieu de toile vierge. Le Journal du Dimanche. Si la mise en scène s'attache à décrire le processus créatif, on ne voit jamais les œuvres. Le scénario reste à la surface, suggérant l'émulation entre Nicky et ses contemporains, et fragmenté à l'image de la mémoire qui fait défaut à l'héroïne, incarnée avec aplomb par Charlotte Lebon. Et enfin Télérama, avec Marie Sauvion. Faute de chambouler la matière même d'un film sagement chronologique, la nécessité de dynamiter les codes reste ici pure théorie.
Ouais, elle a la carte, hein, Céline Sallette, parce que franchement, ça ne mérite pas tous ces éloges. Et donc, un biopic de plus, celui consacré à l'artiste plasticienne Nicky de Saint-Phal. Le film s'attache à évoquer la décennie qui va voir éclore sa vocation. On commence en 1950, elle n'est encore que Nicky Matthews, une jeune franco-américaine, mannequin, actrice, installée à Paris avec son mari et sa petite-fille, et tout ce beau monde, son mari et sa petite-fille, et elle, fréquente le milieu artistique de l'époque. À la suite de pulsions suicidaires liées aux réminiscences d'un traumatisme d'enfance, on peut le dire, elle a été abusée sexuellement par son père, donc elle a subi un inceste, eh bien, à la suite de pulsions suicidaires, elle est quelque temps enfermée dans un asile psychiatrique, et c'est là qu'elle découvre la peinture, un art qui va lui permettre de dépasser ce traumatisme et de pouvoir s'exprimer. Petit à petit, à force de fréquenter les artistes en vogue à l'époque, eh bien, elle va, son art va s'affirmer au cours de la décennie, donc au cours des années 50. Là, ici, on est dans un film de facture très classique et un film surtout très, très, très frustrant, car ça a été dit dans les critiques. Céline Salette, la réalisatrice, n'a pas pu obtenir les droits de reproduction des œuvres de Nikita Saint-Phalle et donc on n'en voit aucune à l'écran. D'où le mal que l'on a quand même à saisir l'originalité de l'œuvre de Nikita Saint-Phalle, de sa démarche et le peu d'intérêt du film en dehors de la performance de Charlotte Lebon, incarnant de façon intense, ça je veux bien le reconnaître, Nikki, l'évocation de quelques épisodes de sa vie, sa relation avec son mari, ses amants, artistes célèbres comme Jean Tinguely ou Armand, et sa progressive affirmation personnelle. Donc on va dire que c'est un film à propos de l'art comme moyen de résilience. Alors certes, on ne fait que deviner en quoi son œuvre est marquante et originale et avant-gardiste. Elle n'est pas vraiment peintre, elle n'est pas vraiment sculptrice, pas vraiment installatrice. C'est une plasticienne, on dit, du moins à ses débuts. C'est un film frustrant et puis quand même très très académique dans sa forme. Hein, franchement, sur les trois biopics, c'est toujours The Apprentice qui est quand même celui qui est à voir. Ah ! Troisième tentative pour Pierre.
Voilà.
On va voir. Là aussi, je crois qu'il connaît le titre, mais c'est pas sûr qu'il se retrouve l'interprète. C'est toujours entendu dans The Apprentice. Ça va venir. Non, ah non. Ah, les années 70, c'est déjà trop tardif pour Pierre. C'est Kissy and the Sunshine Band.
Ah.
I'm your boogeyman. Sur Radio Alpa, ça c'est quoi, ça. Ça s'appelle I'm Your Boogeyman, Kissy and the Sunshine Band, un titre que l'on entend dans le film The Apprentice. Le robot sauvage, c'est un film d'animation proposé au Pathé Quinconce, au Colisée, au Méga CGR, réalisé par Chris Sanders, acteur, réalisateur, scénariste américain né en 62. C'est une pointure en matière d'animation puisque en 2001, il réalise Lilo et Stitch, enfin co-réalise avec Dean DeBlois. Lilo et Stitch en 2001, Lilo et Stitch, 2010, Dragon, toujours avec co-réalisé avec Dean DeBlois. 2013, Les Croods, avec co-réalisateur Kirk DeMico. Et 2020, ça, c'était pas un film d'animation. Ça s'appelait L'Appel de la Forêt avec Harrison Ford et Omar Sy. Pierre, parle-nous un petit peu du robot sauvage.
Durée 1h42. Le titre original, c'est le même, The Wild Robot, avec Lupita Nyong'o, Pedro Pascal et Kit Connor. Le synopsis, le robot sauvage suit l'incroyable épopée d'un robot. L'unité Rozum 7134, alias Rose, qui, après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Elle finit par adopter le petit du noix, un oison, qui se retrouve orphelin. La revue de presse, le journal du dimanche. Impossible de ne pas être bouleversé par un film si intelligent et galvanisant qui ne dissimule pas des vérités parfois cruelles et célèbre la gentillesse. Ouest France avec Thierry Chaise, un bijou de film d'animation. L'Obs avec Xavier Le Herpeur. Le scénario, inspiré du roman éponyme de Peter Brown, déborde d'idées poétiques et philosophiques. Quant à l'animation, elle est ébouriffante de virtuosité. Le Figaro avec Olivier Delcroix, une splendide fable écologique qui ravira petits et grands. Le Parisien avec Renaud Baronian, prodigieux graphiquement, mené à 100 à l'heure et cumulant d'incessants rebondissements, pourvu d'un humour désopilant, le robot sauvage, qui pourra charmer de 7 à 97 ans, se distingue par la générosité de son propos et la grande originalité de son scénario. Paris Match avec Fabrice Leclerc, préparez vos mouchoirs pour l'un des meilleurs films américains de l'année, un petit bijou. Première avec Antea Clos. À travers sa galerie de personnages aussi drôles qu'attachants, comme ce renard taquin ou encore ces malicieux opossums, le trait poétique Le Robot Sauvage émeut sans pour autant tomber dans le pathos.
Voilà, c'est proposé au Pathé Quinconce, au Méga CGR et au Colisée. C'est un film d'animation. Terrifier 3, ça c'est un film d'épouvante horreur. C'est interdit au moins de 18 ans. Alors il faut savoir que ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu un film interdit au moins de 18 ans en France. Oui. Et le dernier c'était Saw 3. Donc c'est que ça doit charcler quand même. Hein. C'est un film de Damien Léon. Alors je pense que ça ne se prononce pas du tout Damien Léon aux États-Unis. Ça doit s'appeler Damien Léoni ou quelque chose comme ça. Et c'est un réalisateur scénariste monteur américain. Son premier long-métrage, c'est Terrifier en VOD. Et Terrifier 2, en 2023, était sorti et était passé largement sous les radars. Là, ça se passe au Méga CGR, si on veut voir Terrifier 3. 2h05, après avoir survécu au massacre d'Halloween perpétré par Art le clown, Sienna et son frère tentent de reconstruire leur vie. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, ils s'efforcent de laisser derrière eux les horreurs passées. Mais au moment où ils se croyaient enfin à l'abri, Art refait surface, bien décidé à transformer Noël en un véritable cauchemar. Jean-François Roger dans Le Monde, le tueur au visage blanchâtre et au petit chapeau représente une incarnation inédite de l'horreur. Remplaçant toute parole par des grimaces et des mimiques enfantines, il désarticule et réinvente la représentation du mal, désormais horrible parce que drôle, drôle, et drôle parce que horrible. Le Parisien Michel Valentin, un grand guignol poussé à l'extrême, virant au surréalisme le plus déjanté, a évidemment ne pas mettre devant tous les yeux. Le Journal du Dimanche, l'excellent David Howard Thornton, qui maîtrise la pantomime, s'éclate dans le rôle muet, à la fois sadique et farceur, d'Art, et les idées de mise en scène fusent, de quoi tolérer les mêmes défauts que dans les précédents opus, des longueurs et une fin bâclée. L'élogie Battista Libération, s'il est sans doute le volet le plus maîtrisé de la série, Terrifier 3, pêche toujours côté découpage, avec des alternances de scènes scolaires et prévisibles, et perd surtout le côté magicien d'Oz, Splatterpunk, oui bon, du deuxième film. Télérama, Augustin Pietron Locatelli. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, splatterpunk. Bon, c'est pas grave, punk, je ne sais pas, splatterpunk. Donc, Télérama Aurien, Augustin Pietron Locatelli. Le personnage frappe, déchiquette et zigouille parce que c'est la seule raison d'être dans un film presque suranné, rempli d'effets aussi vilains que joyeusement dégoulinants. Ben, je ne suis pas allé le voir, moi, Terrifier 3. C'est pas que je sois dégoûté d'aller voir ce genre de film, mais les horaires ne me convenaient pas. Et bon, je me suis dit que c'était pas absolument nécessaire de voir le film, surtout qu'il est proposé en VF et que dans ces cas-là, je sens que la VF est assez cataclysmique. Bon, enfin, même si le héros, Art le Clown, paraît-il, est muet. Enfin, il ne s'exprime pas. Voilà, dernier film cette semaine à l'affiche dans les cinémas Manceau, toujours là aussi, exclusivement Omega CGR, un film d'animation japonais, My Hero Academia, Your Next, réalisé par Tensai Okamura. Alors, de quoi est-il question dans ce film? Il faut aussi dire, il est proposé donc au Omega CGR avec VO et VF. Hein. Il y a autant de VO que de VF chaque jour. Ce n'est pas fréquent au Omega CGR qu'il y ait autant de VO. Là, par exemple, aujourd'hui, il y a 4 séances. Il y en a 2 en VO, 2 en VF. Alors, de quoi est-il question dans ce film d'une durée d'une heure 50? Dans une société où les héros et les vilains s'affrontent continuellement au nom de la paix et du chaos, Deku, un étudiant du lycée UA peut-être, qui aspire à devenir le meilleur héros possible, affronte celui qui imite le héros qu'il admire depuis longtemps. Deku et les autres élèves de la première A du lycée UA pourront-ils protéger le monde en mettant fin aux agissements de Dark Might, l'homme qui prétend être le nouveau symbole de la paix? Bon, tout ça c'est bien mystérieux. C'est un film d'animation et ça marche très fort les films d'animation japonais. C'est une niche et une niche qui marche très très fort. Ça ne m'intéresse pas du tout, donc je ne suis pas allé le voir.
Moi non plus.
Allez, c'est Omega CGR. Allez, avant de nous annoncer plein de choses pour la semaine prochaine, parce que ce sont les 20 ans des cinéastes à partir de ce soir, on va vous annoncer aussi les films en avant-première. On passe un petit titre. Alors celui-là, Pierre, je ne vais pas te demander de le connaître, parce que moi je ne le connaissais pas du tout, mais peut-être que tu le connais. C'est un titre qui s'appelle Ghost Rider et le groupe Suicide sur Radio Alpa, sur ce point très faiblement. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, 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 he's looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. He's blazing away. Like the stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, he's screaming the truth. America's killing its youth. Baby, he's screaming away. America's killing its youth. America's killing its youth. Ghost Rider. Ghost Rider Suicide, c'est un titre que l'on entend dans The Apprentice. Les avant-premières, déjà si vous écoutez en direct ce soir, Claude Lelouch et Kad Merad viennent présenter le dernier film de Claude Lelouch, À 18h30, Pâté Quincoce. 18h30, Pâté Quincoce. Moi, j'ai déjà ma place. Vendredi, 18h30. Finalement, ça s'appelle le titre, finalement, avec Cadmérade et présenté par Claude Lelouch. Il sera au début de la séance, donc je pense qu'on pourra lui poser des questions éventuellement. Dimanche, beaucoup d'avant-premières dimanche. À 11h au Méga et à 10h30 au Pâté, un film d'animation pour les enfants, Croquette, le chat merveilleux, un dessin animé donc, qui sort mercredi suivant, le 16 octobre, donc à 10h30 au Pâté et à 11h au Méga. Toujours dimanche, cette fois-ci à 16h. Alors, au Pâté Quinconce, au Méga CGR et au Colisée, l'avant-première de L'Amour Ouf de Gilles Lelouch. Attention, ça dure 2h45 et le film a la particularité suivante, enfin cette séance a la particularité suivante, c'est qu'on voit le film et qu'ensuite on est en direct avec un endroit où il y a Gilles Lelouch qui va parler de son film, entouré certainement de quelques-uns des acteurs principaux. Donc c'est dimanche 13 à 16h. On peut voir ça au Pâté, au Méga et au Colisée. Et toujours dimanche, cette fois-ci à 16h15 au Pâté, avant-première de Transformers, le commencement, film d'animation qui sortira le 23 octobre. Mais, je vous le disais, ce sont les 20 ans des cinéastes. Et là, Pierre a beaucoup de choses à vous dire.
Ah oui, parce qu'il y a un gros week-end, là, ça commence très fort. Eh ben, dès ce soir, d'ailleurs, à 20h, projection du film Le Nom des Gens.
Très bon film, d'ailleurs.
En présence, en plus, du réalisateur Michel Leclerc. Donc, à 20h, mais vous pouvez arriver dès 18h30, il y a un pot offert avant le film. Et si vous n'avez pas le temps de manger, eh bien, il y aura un repas après le film offert aussi. Et puis donc ce week-end, attention, week-end marathon, 8 films seront projetés samedi et dimanche. À 13h30, Tomboy de Céline Sciamma. À 15h30, Aria Ferma de Leonardo Di Costanzo. À 19h, Drive de Nicolas Winding Refn. À 21h, Burning de Lee Chung-dong. Le dimanche, même heure, à peu près du moins, 13h30, Tabou de Miguel Gomez. 15h45, Bright Star de Jane Campion, 18h15, Mommy de Xavier Dolan et 20h30, Annette de Léos Carax. C'est pas fini. Amateurs d'affiches de cinéma, durant tout ce week-end, il y aura des affiches de cinéma à vendre. Ce sera de 13h jusqu'à 20h30 les deux jours. Et enfin, une émission de Radio Alpa sera proposée en direct du Hall des cinéastes de 16h à 18h, vous pouvez y assister. Et c'est pour cela d'ailleurs que je n'ai pas d'émission demain, voilà.
Voilà, donc pour ça, vous avez ce soir à 18h30 le choix. Soit vous allez voir Claude Lelouch au Pâté Quinconce, soit vous allez voir...
Le Nom des Gens.
Le Nom des Gens, c'est très bien, hein, Le Nom des Gens. Moi je l'ai vu, c'était très drôle comme film, avec Jacques Gamblin et c'est Sarah, ça, oui. Forestier. Voilà, et bien cette semaine, on vous recommande... Enfin, moi, je vous recommande The Apprentice et l'histoire de Suleiman. Et Pierre, il vous dit de rester à la maison si vous voulez aller voir Lee Miller.
Ah oui, non, pas, pas non, par contre, je vais voir The Apprentice. Sûrement,
ah oui,
sûrement.
Absolument. Et l'histoire de Suleiman aussi, vas-y, je t'assure.
D'accord.
Moi, je ne suis pas un gros fan de films sociaux qui parlent des réfugiés, etc. Mais c'est très, très bien fait. Et ce n'est pas du tout yan-yan, moralisateur et tout et tout. Non, c'est vraiment très, très, très intéressant à voir absolument. Donc, la semaine prochaine, il y aura donc L'Amour Ouf. Il y aura le film C'est un monde à l'envers de Nicolas Vanier. Je l'ai vu là aussi, c'est pas top top. Hein. Mm-hmm. Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Ça, je pense que c'est un film pour enfants. C'est l'histoire de Bambi qu'on connaît, mais avec des prises de vue réelles. Il y aura Smile 2. Ça, c'est un film d'horreur. Moi, j'ai vu Smile 1. Le Smile 1 était pas mal. Mais un film d'horreur qui fait 2h12, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, au cinéaste, il y aura Miséricorde d'Alain Guiraudy. Ça a l'air pas mal avec Catherine Fro. La bande-annonce donne envie d'aller le voir. Et puis, Croquette, le chat merveilleux, film d'animation. Donc, on va pas être débordé la semaine prochaine. Il y aura peut-être d'autres films, hein, mais ceux-là, ça en fait 6. C'est certain qu'ils seront proposés dans les cinémas mensaux.
Eh ben, ça tombe bien parce que j'aurai du temps pour parler des films pour enfants, c'est les vacances dans les
jours. Et oui, absolument. Et là, il y en a un bon paquet qui se prépare. Voilà, c'est le fameux grain d'image junior.
Voilà, c'est ça.
Voilà, et bien sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique et nous, on se retrouve, si tout se passe bien, la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir. Thank you.